إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc on continue, Inch'Allah ou Ta'ala, les cours qu'on a déjà commencé. Et donc aujourd'hui, ce sera le troisième cours, et qui concerne bien entendu le sujet de mon cours, Minhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah, c'est-à-dire donc la voie des envoyés en ce qui concerne le prêche ou l'appel à Allah Azza wa Jal. Da'wa, le prêche. Les deux cours précédents, on a insisté sur le premier point de ce qui concernait ce minhaj. Pourquoi on a insisté dessus? Parce qu'on avait dit que le premier point que les envoyés ils avaient concrétisé, effectué, c'était de commencer par ce qu'il y avait de plus important. Et on avait dit, bien entendu, la croyance. Et comme, bien entendu, le Dawa, c'est-à-dire que le sujet du séminaire, c'est la croyance, donc il allait de soi qu'on allait insister sur ce qui était propre à la croyance, qui rentrait, bien entendu, sur ce sujet. Et bien entendu, pour ce qui est de la croyance, on a traité une partie infime. On sait que c'est bien plus large, qu'il y a beaucoup de points à voir, comment les envoyés ont traité tous ces points de croyance. À la Kulihal, on reste ici pour ce qui est donc de ce premier point qui était le commencement des envoyés, parce qu'il est le plus important, et en l'occurrence donc Al-Aqida, c'est-à-dire donc la croyance, concrétisation du Tawhid, Tahqiq al-Tawhid. Simplement pour terminer le sujet d'hier, on avait parlé de ce qui était en relation avec Al-Qubur, c'est-à-dire les tombes, parce qu'on sait que beaucoup de musulmans de nos jours, Riyadan Billah, et Asaf Shadid, beaucoup d'entre les musulmans se sont égarés et ils ont fait des actes de politisme en ce qui concernait Al-Qubur, c'est-à-dire donc les tombes. Et on avait donc parlé, on avait développé sur ce sujet. Simplement un point qui reste donc à définir pour compléter le sujet, c'est que Ziyarat al-Qubur, c'est-à-dire donc la visite des tombes, elle est de trois catégories. La première catégorie, Ziyarat al-Mashru'a. La deuxième catégorie, Ziyarat al-Bid'iyya. La troisième catégorie, Ziyarat al-Shirkiyya. Donc trois catégories. Pour ce qui est de la première catégorie, Ziyarat al-Mashru'a. Donc, c'est la visite qui est, elle, légiférée dans la religion de l'islam, qui repose donc sur des textes, et ici plus précisément sur des faits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle consiste en quoi, cette Ziyarat al-Mashru'a? Comme on l'avait vu hier, en rappelant un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous est kuntu na'itukum an Ziyarat al-Qubur, fazuruha fa inna tuzakkirukum al-akhirah, ou tuzakkir. Elle note, on a fait barre de riwayat, c'est-à-dire que le prophète sallam, après avoir interdit que l'on visite les tombes, il a permis cela. Et on avait vu que l'interdiction concernait qui ? Concernait les hommes. On a étudié cette question, on a développé, on a apporté toutes les preuves par rapport à cela. C'est une interdiction concernait donc les hommes et les femmes. Cette interdiction concernait les hommes et les femmes. Et qu'ensuite, l'autorisation, c'est l'autorisation. Al-Ibaha ensuite. L'autorisation, ça concernait qui ? Les hommes, et non. L'autorisation, ça concernait uniquement les hommes. Et l'interdiction, elle est restée pour qui ? Pour les femmes. Et donc ça, c'est la visite qui est permise. C'est-à-dire que la personne, elle va visiter l'homme afin de se rappeler la mort. Et afin de se rappeler l'au-delà. Et ça, c'est un grand dhikr pour lui. Parce qu'elle voit les gens qui sont autour de lui, qui sont déjà dans leur tombe, et qu'ils subissent déjà soit des châtiments, ou alors des délices, car ils sont fui al-hayat al-barzakhiyya, al-hayat al-barzakhiyya ma bayna al-dunya wal-akhira, c'est-à-dire cette vie qui se trouve entre la dunya et qui se trouve entre l'akhira. Et bien entendu, les gens de la sunna du consensus, d'après les textes du Coran et de la sunna, ils attestent que la personne, elle sera également châtiée, ou elle aura un délice dans sa tombe, contrairement aux Mu'tazila, qui eux l'ont avec Mujarad al-Aql, c'est-à-dire de par leur raison, ils ont réfuté cette croyance-là, malgré tous les textes. Et on avait développé ce sujet, qui est Masalat al-Qabr, et tout ce qui s'y passe, lorsqu'on avait enseigné le livre A'lam Sunnati al-Manshura. À la kulli hal, ça c'est la première. Également, ce qui est permis, c'est de dire des du'as, c'est-à-dire d'invoquer Allah pour al-mayyit, c'est-à-dire d'invoquer Allah azawajal pour le mort. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une du'a qui est connue, salam alaykum, ya ahl al-diyar, min al-mu'minin wa al-muslimin, ila akhiri. Et la vocation générale, d'invoquer donc pour les morts, ar-rahma, etc. Uniquement, c'est ce qui est permis. Pour ce qui concerne ziyarat al-mashru'a. La deuxième catégorie, c'est ziyarat al-bid'iyya, c'est-à-dire la visite qui va être considérée comme innovatrice au niveau de la religion. Innovatrice pourquoi ? Parce qu'il y a des gens parmi les musulmans qui ont eu une croyance et qui se sont dit que lorsque l'on va auprès des tombes et qu'on fait des invocations auprès des tombes, ou alors qu'on prie auprès des tombes, bien entendu, il n'y a pas d'acte chez eux de polythéisme. Simplement, ils ont la croyance que dans cette partie, c'est-à-dire le maqbara, c'est-à-dire le cimetière, ni auprès des tombes, Allah Azzawajal yastajib, c'est-à-dire qu'il va répondre à l'appel, comme si c'était, bien, il y avait le baraka, comme s'il y avait donc une bénédiction, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est interdit. Que ce soit pour la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors que ce soit pour la tombe d'autrui. Dans tous les cas, c'est interdit d'invoquer auprès de la tombe. Parce que cela, c'est une innovation. Et que jamais personne parmi les sahaba l'ont fait. Ni même les salaf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne l'a pas fait. Ce qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est uniquement ziyara, c'est-à-dire donc la visite de sa tombe, de la tombe, et ensuite donc le doigt. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a visité la tombe de sa mère. Il a visité la tombe de sa mère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avait fait avec sunnah al-Nabawiyya, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pleuré, et que les sahaba qui étaient avec eux, ou avec lui, ils ont pleuré également. À la kulli hal, ça c'est al-ziyarat al-bid'iyya, le fait d'aller dans le cimetière et d'invoquer Allah Azzawajal. C'est-à-dire qu'ils n'invoquent pas le mort, mais ils invoquent Allah Azzawajal, les invocations qui sont déjà avec Allah Azzawajal, ou alors même ils prient, ils font des actes d'adoration, simplement avec la croyance qu'il y a le baraka, ou alors que c'est quelque chose qui est avantageux de faire à cet endroit. Ali bid'a, c'est ziyarat al-bid'iyya. Ensuite, la dernière, c'est al-ziyarat al-shirkiyya. Là, on rentre maintenant dans le shirk, c'est-à-dire dans l'associationnisme. Et c'est ceux, bien entendu, qui vont auprès des tombes et qui invoquent le mort. Qu'ils le prennent donc comme un intermédiaire. Et c'est ce qu'ils appellent donc al-awliya, c'est-à-dire les proches d'Allah Azzawajal. Donc, ils vont vers les tombes des proches, salihin, al-awliya, ceux qui étaient pieux dans leur vie. Ils font des actes d'associationnisme qui en réalité va se transformer par une adoration. Ils vont par exemple égorger auprès de cette tombe-là, ou alors ils vont invoquer le mort directement. Et ce qu'ils vont faire, cet acte-là, n'a aucune différence avec Ubbad al-Asnam, ceux qui invoquent en réalité les idoles. Allah Azzawajal, il dit à propos d'eux dans le Coran, c'est-à-dire leur choubois, c'est-à-dire leur ambiguïté, qu'ils citent lorsque l'on fait la remarque, lorsqu'on appelle à délaisser cette adoration, les statues et autres, il dit مَا نَعْبُدُ مِنْ لَا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ سُلْفَةً C'est-à-dire, nous les adorons uniquement que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah Azzawajal. Allez, par degré. Ils nous rapprochent d'Allah Azzawajal uniquement. Et là, c'est la même chose qu'ils font. Ils vont envers ces tombes, ils égorgent auprès de cette personne qui est enterrée, ça a l'air, qui ne peut absolument rien faire pour eux. Et donc, dans la croyance que ce seront donc Shufara, ce sont des intermédiaires, Allah Azzawajal va répondre à leur invocation de par cela. Taïb, pour les trois catégories de la visite. Ziyaratu, Mashru'a, wa Bid'aya, wa Shirkiya. Ensuite, une dernière question que l'on cite lorsqu'on a parlé donc de la prière. Là où il se trouve une tombe, comme par exemple construire des mosquées sur des tombes, alors qu'ils ont construit des mosquées en direction des tombes, on l'a expliqué, on l'a détaillé cela derrière la dernière fois. Il faut savoir donc que celui qui va prier et qui le fait donc avec la niya qasd al-qabr, cette personne-là, bien entendu, sa prière n'est pas acceptée. Car le nahi yaqtadi al-fasad, c'est-à-dire donc l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier à ces endroits-là et de prendre donc ces endroits-là al-qubur comme masjid, comme lieu de prière. Ce nahi yaqtadi al-fasad, c'est-à-dire que ça va impliquer quoi? L'annulation de la prière. Donc la personne qui va faire cela, sa prière elle est nulle, elle est non valable. Wa ikhtilaf al-ulama, divergence des savants, si par exemple une personne elle a prié dans une mosquée et qu'elle n'était pas au courant qu'il y avait une khat, ou alors qu'elle l'a su au dernier moment et qu'elle a prié sans qu'elle ait l'intention donc de prier à l'endroit parce qu'il y avait une khat. Donc il y a un ikhtilaf al-ulama sur ça, et parmi les savants comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, ils voient que sa prière à lui elle est acceptée. Ala kulli hal hadha li fa'ida. Ensuite, pour ce qui est donc de l'autre point, ou du deuxième point qui concerne une ajl, l'anbiya fi da'wati ilallah azawajal, c'est al-ilm. Al-ilm, c'est-à-dire donc la science. Et on sait que les envoyés, ils ont commencé leur da'wah, leur prêche, donc une fois qu'ils ont eu science de ce qu'il fallait qu'ils fassent, qu'ils ont eu science d'Allah azawajal. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran à propos de notre prophète وَأَنْزَلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ c'est-à-dire qu'Allah a zoté, il a fait descendre sur toi le livre et la sagesse. Al-Hikmah ici, les savants disent حِنَمَا تَكُنَ الْحِكْمَةِ مَقْرُونَ بِالْكِتَابِ فَهِيَ السُنَّةِ c'est-à-dire lorsque on trouve dans le Coran le terme Hikmah et qu'il est relié avec Al-Kitab, c'est-à-dire le livre d'Allah a zoté, Al-Hikmah ça veut dire quoi la Sunnah? C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal lui a appris le Coran et lui a appris également la Sunna. C'est-à-dire qu'il lui a appris ce qu'il devait faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses actes et dans ses paroles et qui constitue bien entendu la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. C'est-à-dire il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Donc au départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait de science sur ce quoi il allait exactement prêcher, par quoi il devait commencer, etc. Et Allah Azzawajal donc lui a donné la science. Donc ici c'est minhaj, c'était pareil pour tous les envoyés. Et donc il en est à partir de là de même pour toute personne qui doit suivre ce minhaj, qui doit suivre donc minhaj al-anbiya fi da'wati ilallah. Il doit commencer d'abord par apprendre. Avant de faire la da'wa, il doit commencer à apprendre. Et Allah Azzawajal nous dit dans un autre verset qui est encore de plus clair. قُلْ هَذِي سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهُ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ici, il dit de dire à son envoyé, قُلْ هَذِي سَبِيلِ, c'est-à-dire ceci est ma voix. هَذِي سَبِيلِ, la voix. السَبِيلِ qui apparaît, qui est également minhaj. قُلْ هَذِي سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا, c'est-à-dire j'invoque, ou alors j'appelle Allah Azzawajal عَلَى بَصِيرًا. Est-ce que vous dites ce terme basira? عَلَى بَصِيرًا. Donc les savants, lorsqu'on revient au tafsir al-ilm, on voit qu'il y a plusieurs interprétations. Ceux qui vont nous dire al-yaqin ou al-haq, c'est-à-dire un voc suivant la certitude et la vérité al-haq. Également ceux qui disent al-ma'rifatin wa al-tahqiq, c'est-à-dire un voc donc suivant la connaissance. Et ceux qui disent également al-hujjatu al-wabiha, c'est-à-dire l'argument et la preuve qui va être claire. Ça, ça constitue al-basira. Donc al-ma'rifa, al-tahqiq, al-hujja, al-yaqin, al-burhan al-shar'i, wal-aqli kadhalik. Et c'est pour ça que le Cheikh Sulayman ibn Abdillah, celui qui a expliqué le livre de Kitab al-Tawhid, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullah al-jamir, le Kitab al-Tinsir al-Aziz al-Hamid, il dit, wajib dhalik, an ittiba'u sallallahu alayhi wa sallam wajib. C'est-à-dire le fait de suivre le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est obligatoire pour tout le monde. Et les versets du Coran, ils sont plus que clairs sur cela. Et la Sunna également. وَلَيْسَ اِتِّبَاعُ حَقًّا إِلَّا أَهْلُ الْبَصِيرَةِ. C'est-à-dire que réellement, son suivi, il ne se fait d'une manière véritable et concrètement que par les gens qui ont la al-basira, qui ont donc la science, qui ont donc al-ma'rifa, qui ont donc la connaissance. Et ensuite, il dit فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ فَلَيْسَ مِنْ أَتْبَاعِي فَتَعَيَّنَا أَنَّ الْبَصِيرَةَ مِنَ الْفَرَائِضِ. Donc il nous dit que ceux qui ne vont pas avoir la science en ce qu'ils prêchent et qui ne vont pas suivre les envoyés dans cela, alors ce ne sont pas des gens qui sont considérés comme atba' ou comme ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il nous dit que cela c'est une obligation. فَتَعَيَّنَا أَنَّ الْبَصِيرَةَ مِنَ الْفَرَائِضِ. Que la science donc c'est une obligation. Et encore plus pour celui qui va donc suivre, qui veut suivre les envoyés et qui va donc commencer par le prêche, qui va donc faire la da'wa ila Allah Azza wa Jal. Et il nous dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a'la da'ajati al-ilm, c'est-à-dire le plus haut niveau de la science, et il dit al-basira, allati takun, nisbatu al-ulum fiha ila al-qalbi, ka nisbati al-mar'i ila al-basar. C'est-à-dire que c'est le plus haut niveau de la science, al-basira. Et entendu, al-basira, il y a des étapes, taïb, parce qu'il y a de la science pour ça, parce que la personne va apprendre. Il nous dit que le terme lui-même, basira, ça va être considéré comme le plus haut niveau de la science. A'la darajat. Et il va nous dire, rahimahullah, que ceci va devenir en réalité comme la chose que l'on voit. La chose que l'on voit, c'est quelque chose, on n'a aucun doute sur elle, et on a on a réellement science de ce qu'on peut voir. De même pour ce qui est des sciences par rapport au cœur. Et il nous dit, وَهَذِي الْخِصِّيصَ الَّتِي اخْتَصَّ بِهَا الصَّحَابَ عَنْ سَيْرِ الْأُمَّةِ C'est-à-dire que c'est cette particularité, c'est cette spécificité qu'ont eu les Sahaba sur le reste de la communauté. Car ils ont eu cette basira, ils ont eu donc cette science. Ils ont pris la science directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont appliquée. Tous les hadiths qui nous sont venus, ils sont venus de qui? Ils sont venus des Sahaba. Le Coran lui-même, il est venu de qui? Il est venu des Sahaba. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc la science, elle est venue d'eux. C'est eux qui avaient le basira. Ils se sont donc différenciés des autres personnes de cette communauté de par cette basira, de par donc cette science. Et il nous dit que c'est le plus haut niveau des savants. Et donc, tashmal al-basira al-ilm bi-shara, c'est-à-dire la science de la législation. Et également al-ilm bi-hal al-mad'u, c'est-à-dire elle concerne également la connaissance de la personne à qui on va faire la da'wa. Quelle est donc cette personne-là? Parce que ça fait partie des gens du livre. Ce qui fait partie des chrétiens, des juifs, ce qui fait partie des athéistes, ce qui fait partie des communistes, etc. Yani, pour savoir yani, par quoi on va, ou de quelle manière on va s'y prendre avec lui, et quels sont les hujjah qui vont être les plus efficaces lorsqu'on va l'appeler Allah Azza wa Jal et la suite de la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, al-ilm bis-sabil al-musil ilayhi ila al-maqsoud, et al-hikma, c'est-à-dire également la connaissance de cette voie que l'on va emprunter à ce moment-là pour arriver à convaincre ces gens avec qui on va, à qui on va appeler. Et c'est bien entendu ici la hikma, c'est également ici la sagesse. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'ad au Yémen, il lui avait dit « Inna ka ta'ti qawman min ahli kitab, fal takun awwala ma tad'u ilayhim shahadatu an la ilaha illallah » ou fi ba'd riwayat, ibadatullah. C'est-à-dire que la première chose avec laquelle tu vas commencer, et ici, à Shahid, le témoin argumentatif ici, c'est Inna ta'ti qawman min ahli al-kitab. Donc, il va déjà lui enseigner quelle va être leur particularité. Les gens du livre. Donc, eux, ils ont une croyance. Ils ont une croyance. On sait comment on va commencer avec eux. Et ensuite, il a bien entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, une preuve qu'on commence, bien entendu, tout le temps par la croyance. Parce qu'il lui a dit ensuite, la première chose avec laquelle tu dois commencer, c'est quoi? Ibadatullah. C'est-à-dire, l'adoration d'Allah Azza wa Jal, qui est Tawhid al-Uluhiyya. Et donc cette science-là, on sait que Allah Azza wa Jalla, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander encore plus de science tout le temps. C'est pour ça que dans ce verset du Coran, Allah Azza wa Jalla yaqul wala ta'jal bil Qur'an wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyuhu. Ne te précipite pas pour ce qui est de la récitation du Coran jusqu'à ce qu'on finisse de te donner la révélation, qu'on termine donc la révélation qu'on est en train de te donner. وَلَا تَعْجَلْ فِي الْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et donc dit, ô mon Seigneur, augmente-moi de science. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Donc on voit que même dans cette doua, avec la science qu'il avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla lui demande أَنْ يَدْعُو الْمَزِيدِ, qui lui demande donc une augmentation, ziyada, pour ce qui est de la science. Et il nous dit Ibn Hajar al-Asqalani, المراد بالعلم وكسيت العلم الشرعي الذي يفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر والنهي نعم من أمر دينه في عبادته ومعاملته والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيه عن النقائص. Donc il nous dit ici, Ibn Hajar, que ce qui est voulu par l'ilm, c'est la science religieuse, celle que dont sa connaissance est obligatoire pour toute personne qui va être donc chargée ou qui va être considérée comme, aux yeux de la religion, comme responsable, le mukallaf. Pour ce qui concerne donc Amr al-Din, c'est-à-dire tout ce qui concerne la religion. Et il nous dit, à titre d'exemple, al-ibada ou al-mu'amala, tout ce qui rentre dans l'adoration, tout ce qui rentre dans le relationnel. Et également, al-ilmu billah wa sifati, c'est-à-dire donc la science d'Allah Azza wa Jal. La science d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire comment Allah Azza wa Jal, il est qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et wa sifati, c'est-à-dire les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce que wa ma yajibu lahu min qiyam bi amri wa tanzi' an naqais, et tout donc les droits qui lui revient Allah azza wa jalla, et tout ce qu'on doit donc lui écarter comme imperfection pour ce qui est de notre croyance. Hada wa al-'ilm. Également, ce qui va rentrer parmi les points qui vont entrer dans ce minage, c'est bien entendu l'ikhlas. C'est donc la pure intention, l'intention qui va être pure, l'ikhlas. Et lorsqu'on dit l'ikhlas, c'est-à-dire qu'il invoque ou alors qu'il appelle uniquement Allah Azza wa Jal. Il ne veut rien d'autre par rapport à cela. Il appelle uniquement pour Allah Azza wa Jal. Iwajillah Azza wa Jal. Donc il ne va pas appeler pour un autre qu'Allah Azza wa Jal. Ou alors il ne va pas appeler pour, par exemple, un hizb. Il ne va pas appeler donc pour un parti ou pour autre chose. Il va appeler uniquement pour Allah. C'est ce qu'on fait donc tous les envoyés. Et ici donc, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on va citer. Et qui est hadith Jabir, radiallahu ta'ala anhu, hadith muttafaqun alayh. Yaqul, qazawna ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam, وقد فاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا. C'est-à-dire que nous avons donc fait une guerre, une غزوة avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقد فاب, يعني فاب معنى اجتمع, et qu'il y a eu beaucoup des gens parmi المهاجرين, parmi les immigrés qui se sont réunis, jusqu'à qu'ils ont été nombreux. وكان من المهاجرين رجل لعاب. Il y avait parmi les المهاجرين une personne. L'a'ab, certains savants l'ont expliqué comme une personne qui yal'ab bil-hirab, c'est-à-dire une personne qui faisait le habasha, c'est-à-dire qu'il avait une distraction avec ce qu'on appelle la lance. Et qu'est-ce qu'il a fait cette personne-là? Comme a fait le hadith, فَكَسَعَ أَنْصَرِيًا فَرَضِبَ الْأَنْصَرِيَ رَضَبًا شَدِيدًا. C'est-à-dire ce qu'il a fait, il a donné une frappe, c'est-à-dire فَكَسَعَ بِالْعَيْن فَكَسَعَ il est ضَرَبَوْ عَلَى الدُّبُورِ. Il l'a frappé donc sur son postérieur. Et il s'est énervé. Al-Ansari, il s'est énervé. Il s'est mis très en colère. Et il n'a pas apprécié cela, cet acte-là. Hatta tada'u wa qala al-Ansari, yali al-Ansari wa qala al-Muhajir, yali al-Muhajiri. C'est-à-dire que chacun il va appeler Khabilatu. C'est-à-dire il a même pas civilé. Pour ce qui est de Al-Ansar, pour ce qui est de Al-Muhajir. Donc il a dit, yali الأنصار إلى آخر الذي المهاجر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عليه الصلاة والسلام إلى ذي فقال ما بال دعوى أهل الجاهلية، c'est-à-dire quel est donc cet appel des gens de la jahiliya. ثم قال ما شأنهم، il a donc demandé à ce moment-là quel est leur problème. فأخبر بقصة المهاجر للأنصاري، et à ce moment-là donc on va lui informer de ce qui s'est passé le prophète صلى الله عليه وسلم et l'attaque qu'il y a eu donc, et d'où quelle a été en réalité la source du problème. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الشاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة، دعوها فإنها خبيثة. دعوها إيش؟ الدعوة، هذه الدعوة c'est-à-dire لا تتبلى فإنها خبيثة، c'est-à-dire qu'elle est pourrie, elle est non valable. فإنها خبيثة. Ici regardez comment ils vont expliquer les savants ce hadith. Qu'est-ce qu'ils vont dire à partir de là? Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, on va bien comprendre ce qu'on a voulu à partir de ce hadith. On a bien compris l'histoire. On va voir al-hikmah, c'est-à-dire la sagesse qu'on va en tirer et la science qu'on va en tirer de ce hadith et qui nous concerne ici directement lorsqu'on parle de da'wa ilallah et uniquement ilallah azawajal. La ilihiz ou la shaytan. Il dit, Cheikh Al-Islam, هذا كل الكلام في مجموع الفتاوى وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن. Tout ce qui sort donc du prêche concernant l'islam et concernant le Coran, من نسب، que ce soit donc une affiliation، أو بلد، ou que ce soit un pays، أو جنس، ou que ce soit donc une nationalité ou autre، أو مذهب، ou alors que ce soit un مذهب، une école de jurisprudence، أو طريقة، ou alors que ce soit une voie، فهو من عزاء الجاهلية. Ça fait partie donc tout cela réellement de ce qui est en relation avec la jahiliya, qui est propre à la jahiliya, c'est-à-dire à l'ignorance. Et regardez ce qu'il va dire. فهذان الاسمان المهاجرون والانصار اسمان شرعيان. À la base, le terme ansar et le terme muhajir, ce sont deux termes qui sont quoi? Qui sont légiférés. شرعيان. Et pourquoi cela? Parce qu'on retrouve dans le Coran المهاجرون والانصار. Et il va nous dire جَاءَ بِهِمَا الْكِتَابُ وَالسُنَّةُ وَسَمَّاهُمَا اللَّهُ بِهِمَا كَمَا سَمَّانَا الْمُسْلِمِينَ comme nous appelait les musulmans مِنْ قَرْءٍ يعني يا نصر وانتساب الرجل إلى المهاجر أو الأنصار حسن محمود عند الله وعند رسوله. C'est-à-dire bien au contraire, la personne qui va se dire des ansars, qui va se dire des muhajir, c'est quelque chose qui est louable auprès d'Allah et son prophète avec ce qu'on fait les ansars et ce qu'on fait les muhajirin pour l'islam. Et il nous dit ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط الانتساب. C'est-à-dire c'est pas non seulement uniquement lorsqu'on a dit ansar ou lorsqu'on a dit muhajir, c'est pas uniquement l'affiliation, c'est-à-dire le tarif, afin qu'on se différencie des autres, qu'on sache que cette personne-là, comme ashab al-qabila, lorsqu'on dit que cette personne-là ansari, c'est une personne qui est ansari, ou cette personne-là elle est de telle qabila, etc. Voilà mubah, lorsqu'on dit une personne elle est de telle qabila, ada ahsani, etc. C'est quelque chose qui nous parle en islam. Tantasib ila qabilatik. D'ailleurs, il nous dit, ça fait un peu partie de ça. Laisse amener le mubah, elle a dit, yuqsadu bihi al-ta'rif faqat kal-intisab ila al-qabail wal-amsar. Wala min al-makruh al-muharram kal-intisab ila ma yufdi ila bid'atin wa ma'asiyatin ukhra. Thumma, ensuite il va dire, et ce n'est même pas non plus ce qui est strictement interdit et qui peut donc amener et conduire, c'est une appellation qui va amener et conduire à quoi? À l'innovation dans la religion. Et ensuite il va dire فلما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها انكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوه الجاهليه. À ce moment-là, ce terme ansar, ansar ou muhajir, lorsque ils les ont appelés dans cette situation les deux par ce nom-là, le prophète صلى الله عليه وسلم انكر عليهم, c'est-à-dire donc il a réprimandé. Et il a dit هذه دعوه دعوه الجاهليه. C'est donc un prêche qui est quoi? Qui est propre à la jahiliya. Donc regardez à la base, deux termes qui sont employés, qui sont shari, et qui sont même mahmoud, qui sont donc loi. Le prophète sallam, lorsqu'il a eu ce qasd-là, ils ont appelé eux à ce moment-là, alors, mindab al-unsuriya, ils ont appelé donc à leur qabila, à ce moment-là, c'est devenu da'wat al-jahiliya. Et on a oublié qu'est-ce que c'était réellement al-ansar ou al-muhajir à ce moment-là, car c'est sorti complètement du contexte. Donc regardez, et ça, qu'est-ce qu'on va profiter par rapport à cela? C'est que on ne peut en aucun cas appeler donc un hizb. Et même si ce hizb-là, on le nomme par un terme qui va être un terme shar'i. comme par exemple les Ikhwan al-Muslimin, le groupe qui est connu qui s'appelle les Ikhwan al-Muslimin, sont dans les Ikhwan al-Muslimin. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant Allah Azzawajal, nous a dit إنما المؤمنون إخوة. الإخوان المسلمين نعم الإخوان المسلمين on est tous des frères musulmans. الله عز وجل هو البخاري السلامي dit المسلم أخو المسلم. Mais qu'est-ce qui est voulu par ce terme-là? Quelle est la da'wa qui est derrière ça? Et à quoi on appelle? Est-ce qu'on appelle réellement Allah عز وجل ou est-ce qu'on appelle donc un hizb qui comprend donc des règles et qui va regrouper des gens afin donc de parvenir à des objectifs qui sont bien précis? Donc on voit que ici, si ça, ça se transforme, c'est-à-dire ces noms-là, même s'ils sont pris de la sunna ou alors du kitab, et si on veut, par ces noms-là, une da'wa qui va être non pour Allah Azzawajal, mais pour l'appel à un hizb mu'ayyan, c'est-à-dire un parti bien précis, alors ça ne devient pas une da'wa qui dit jahiliya, comme il s'est passé avec l'ansar ou le muhajir. Et en vérité, on va nestakhrij, on va en tirer donc de cette histoire la même chose. Pour ce qui se passe, on en fait le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on peut voir parmi les jama'at, etc. Donc ici, c'est Al-Ikhlas, c'est-à-dire qu'on est pur, on a une pure intention et qu'on appelle uniquement Allah Azzawajal, rien d'autre, pas un hizb ou autre. Et pour ce qui est également, pour compléter donc ce sujet, qui est un sujet qui est important, on va citer une parole du grand savant Abdelaziz ibn Abdillah ibn Baz, dans son livre Da'watu ila Allah wa akhlaq al-du'at, une parole qui va être importante. Et comme on a dit, elle varie, comme on avait dit donc le premier cours, parce qu'on avait fait l'introduction pour ce qui était de la science, c'est celui qui transmet. Donc on transmet ici les paroles de ce savant pour ce qui est de cette question. Il nous dit Anna al-wajiba ala da'iyat al-islami, an yad'ua ila l'islam kulli. C'est-à-dire, ce qui est obligatoire pour le prêcheur musulman, c'est qu'il appelle à l'islam. À l'islam en entier, et tout ce qu'elle comprend. Voilà, il fardait bain al-nas, il ne fait pas de division entre les gens. Et qu'il ne soit donc pas, qu'il ne suit pas inconditionnellement, aveuglément, donc, un madhab, qui est une école de pensée, comme par exemple, al-madhab, al-madhab, al-fiqhiyya, d'un madhab, sans un autre madhab. Ou les qabilatin d'un qabila, ou alors qu'il suit donc une tribu sans une autre tribu. Ou les sheikhihi, ou ra'isi, ou ghayri dhalik, c'est-à-dire alors qu'il suit donc son sheikh uniquement. De manière inconditionnelle, aveuglement, ou alors celui qui le dirige, etc. Il nous dit bel al-wajib an yakuna hadafu isbat al-haqq wa idahahu. C'est-à-dire, il nous dit que ce qui est al-wajib, c'est qu'il donc, et son objectif, c'est qu'il atteste la vérité et qu'il la mette en évidence. C'est ça. C'est cela. Qu'il appelle Allah Azzawajal et tout ce qui donc fait partie de la vérité et qui est de la religion d'Allah Azzawajal avec ikhlas, il appelle. C'est-à-dire également qu'il veut par là donc la droiture des gens. Mais même si cela donc va en contradiction avec l'avis d'une personne, d'un tel ou d'un autre. Et donc, lorsque il est né chez les gens, ceux qui ont suivi inconditionnellement, aveuglement, al-madahib, c'est-à-dire donc les écoles. Les écoles de pensée. Il rentre également ici, bien entendu, l'ahzab, tout ce qui va rentrer sous ce nom, al-madahib. Wa yaqul, inna madhab fulan awla min madhab fulan. Ja'at al-furqatu wal-ikhtilaf. Et donc, ils vont dire à ce moment-là que le madhab de cette personne est meilleur que le madhab de cette personne. Ici, ça peut être considéré, ça va être plus précisément comme madhab al-fiqhi. Ja'at al-furqatu wal-ikhtilaf. Et à ce moment-là, il est advenu quoi? Al-furqa, c'est-à-dire la division de schisme, wal-ikhtilaf. Donc la dissension dans la communauté. حَتَّى أَلَى بِبَعْضِ النَّاسِ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا أَنْ لَا يُسَلِّيَ مَعَ مَنْ هُوَ عَلَى غَيْرِ مَذْهَبِ. Jusqu'à ce que cela est venu, que la personne qui est un autre madhab, il ne prie pas avec une personne qui a un madhab différent de lui. Comme par exemple, il dit فَلَا يُسَلِّي الشَّافِعِي خَلْفَ الْحَنَفِي وَلَا الْحَنَفِي خَلْفَ الْمَالِكِ وَلَا خَلْفَ الْحَنْبَلِي. C'est-à-dire que le Shafi'i, il ne va pas prier avec celui qui dit Maliki. Ou le Maliki, il va prier avec celui qui est Hanbali, etc. Et comme on l'a vu auparavant, Durant le Hajj, à l'époque, il y avait quatre sections. Quatre sections. Et dans ces quatre sections, c'était chaque madhab. C'est-à-dire que le madhab al-Shafi'i priait tous ensemble. Ou le Hanafi, de même, etc. Et comme on peut voir aujourd'hui, dans les mosquées, lorsqu'on voit donc que certains, qui sont du madhab al-Hanafi, ils prient donc ensemble. Ils ne se mélangent pas avec les autres, ils ont chacun leur mosquée. Ils sont même venus, à diviser la mosquée en deux. Subhanallah. Et il nous dit donc, وهكذا وقع من بعض المتطرفين المتعصبين c'est-à-dire que cela est advenu de ceux qui sont donc considérés comme extrémistes et qui sont considérés donc comme étant des suiveurs de manière aveugle et inconditionnelle. Et ensuite il nous dit وَهَذَا مِنَ الْبَلَاءِ وَمِنِ اتِّبَاعِ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Et ça fait partie donc de quoi? Ça fait partie des épreuves néfastes, ça fait partie même du fait que l'on va suivre le chemin du diable, les pas du diable. قال أئمة هدى الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وأشباههم كلهم أئمة هدى ودعاة حق. C'est-à-dire que tous ces gens, que ce soit l'imam Malik, que ce soit l'imam Shafi'i, Ahmed et tous ceux qu'il a cités, sont tous des imams. Tous des imams dans la religion. On n'a pas faire de différence à ce moment-là. Ce sont tous des gens qui ont, eux, appelé à la vérité. Qui ont appelé avec ikhlas et qui ont appelé donc à la vérité. Ils n'ont pas appelé à des ahzab, des routes, mais ils ont appelé à la vérité. Da'oun nas ila dinillah. وَأَرْشَدَهُمْ إِلَى الْحَقِّ. Et donc ils les ont appelés à la religion d'Allah Azza wa Jalla. Ils les ont donc dirigés sur la vérité. وَقَعَ هُنَاكَ مَسَائِلٌ بَيْنَهُمْ. C'est-à-dire que وَقَعَ هُنَاكَ مَسَائِلٌ بَيْنَهُمْ. C'est-à-dire qu'il y a eu des divergences entre eux, des questions qui concernaient le fiqh. اِخْتَلَفُوا فِيهَا يَخَفَى الدَّلِيلَ عَلَى بَعْضِهِمْ فَهُمْ بَيْنَ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ لَوْ أَجْرًا وَبَيْنَ مُجْتَهِدٍ أَخْطَأَ الْحَقَّ فَلَوْ أَجْرٌ وَاحِدٌ. فعليك أن تعرف لهم قدرهم وفضلهم وأن تترحم عليهم. Et donc, ces gens-là, ils ont eu des divergences, mais cela n'empêche pas, à titre d'exemple, il a donné un exemple, lorsque, par exemple, le dalil, il peut être donc dissimulé pour la personne, donc elle n'a pas eu le dalil, ou alors que, Wajjal Istidal, par exemple, l'aspect argumentatif n'est pas apparu pour cette personne-là, et donc elle a un avis qui est différent. Il y a beaucoup de asbab, puis d'irtilafat, ben al-ulama. Et donc, il nous dit, ces gens-là, ils vont être considérés comme soit Mujtahid qui a fait un effort d'interprétation parce qu'il avait le niveau, qu'il était un grand savant et qu'il a atteint donc la vérité. Et le fait qu'il a atteint la vérité, il va avoir deux. Comme cela est venu dans le hadith du prophète, il va avoir donc deux. De quoi? De récompense. Alors que celui qui a fait l'ijtihad, il n'est pas parvenu à la vérité, il va avoir un simple ajr. Mais il aura quand même un ajr. Et il nous dit donc qu'on doit reconnaître leur niveau, on doit reconnaître donc leur rang dans leur religion. Et on doit donc invoquer pour eux al-Rahma. وأن تعرف أنهم أئمة الإسلام ودعاة الهدى ولكن لا يحملك ذلك على التعصب والتقليد الأعمى فتقول مذهب فلان أولى بالحق لكل حال أو مذهب فلان أولى بالحق لكل حال لا يخطئ لا هذا غلط c'est-à-dire donc on ne doit pas différencier ou dire ce madhhab est meilleur qu'un autre et qu'on doit le suivre donc aveuglément. عليك أن تأخذ بالحق وأن تتبع الحق إذا ظهر دليله ولو خالف فلان أو فلان. وعليك أن لا تتعصب وتقلد تقليدا أعمى بل تعرف للأئمة فضلهم وقدرهم ولكن مع ذلك تحفاظ لنفسك ودينك فتأخذ بالحق وترضى به وترشد إليه إذا طلب منك. C'est-à-dire donc à ce moment-là tu suis uniquement la vérité. C'est ça toi ta fonction, c'est que tu suives la vérité lorsque bien entendu il t'apparaît la preuve. Lorsque la preuve elle t'apparaît, à ce moment-là tu dois la suivre. Et c'est pour cela donc que tu dois prêter attention et que tu es attentif pour ce qui est de ta religion. Et donc tu prends de la vérité tout en reconnaissant, même si cela était contraire donc, à la parole d'un grand savant, parmi les madaïb ou autres, sans reconnaissant donc son cadre, cette personne-là. Et ensuite il dit وَتَخَافُ اللَّهُ وَتُرَاقِبُوا جَلَّ وَعَلَى مَعْ إِمَانِكْ لِأَنَّ الْحَقْ وَاحِدْ وَأَنَّ الْمُجْتَهِدِينَ إِنْ أَصَابُوا فَلَهُمْ أَجْرًا وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِدٌ. Donc il l'a dit déjà. Il nous dit le shirk, le maqsoud ou al-hadaf ikhraj an-nas min al-dhulumat ila an-nur. C'est-à-dire que le véritable objectif des du'at, qui était donc le ménage des anbiya, c'est de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Wa yarshaduhum ila al-haqq hatta ya'khudhu bihi. C'est-à-dire et donc leur montrer la vérité jusqu'à qu'ils l'apprennent et les diriger, les guider vers cette vérité. Wa yanju min an-nar jusqu'à donc qu'ils se sauvent donc et qu'ils soient sauvés de ce du feu. وَنَجُوا مِنْ غَضَابِ اللَّهِ. Et ils sont donc protégés, ou alors ils sont donc sauvés de la colère d'Allah Azza wa Jal. وَإِخْرَاجُ الْكَافِرِ مِنْ ظُلُمَةِ الْكُفْرِ. Et donc faire sortir le mécréant des ténèbres de la mécréance. إِلَى النُّورِ وَالْهُدَى. Jusqu'à donc qu'il vienne à la lumière et الْهُدَى. وَإِخْرَاجُ الْجَاهِلِ مِنْ ظُلُمَةِ الْجَهْلِ إِلَى نُورِ الْعِلْمِ. والعاصي من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة. Et donc également faire sortir la personne qui va être dans l'ignorance et lui apporter la science et faire sortir la personne qui est dans le péché pour l'amener jusqu'à l'obéissance. هذا هو المقصود من الدعوة. وما قال جل وعلا والله ولي الذين آمنوا يخرج من الظلمات إلى النور. Ça c'est le maqsoud de la da'wa. C'est ce qu'on veut faire. Donc comment dire au départ, allez, khalas, et qu'on veut uniquement wajhullah, et qu'on suit, et qu'on veut par rapport à cela, la vérité, suivre donc al-haq. Que ce soit donc à tous les niveaux. Et comme il a cité le verset, والله ولي الذين آمنوا يخرج من الظلمات إلى النور. فالرسول, donc regardez, les envoyés, بُعِثُوا لِيُخْرِجُوا النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Donc tous les envoyés, ils ont été envoyés pour cela, pour les faire sortir les gens du الظُّلُمَاتِ, c'est-à-dire donc des ténèbres jusqu'à la lumière. وَدُعَاتَ الْحَقِّ كَذَلِكَ يَقُومُونَ بِالدَّعْوَةِ وَيُنْشِطُونَ لَهَا. De même donc pour ceux qui appellent à la vérité. Donc ils font cette même da'wa. Ils font également cette même da'wa. Ils accomplissent cette même da'wa, la même qu'ont fait les prophètes. لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. إلى آخر كلام الشيخ رحمه الله تعالى. Donc ça, c'était pour ce qui était du fait que l'on veut par cette da'wa uniquement au Dieu Allah Azza wa Jal, et qu'on ne cherche pas par cela à appeler à un parti ou à appeler à une école bien particulière, etc. Également, une parenthèse qu'on va citer et qui est importante, c'est certaines choubouates, c'est-à-dire certaines ambiguïtés que les gens y ramènent pour ce qui est donc de commencer par Al-Aqidah, et également pour ce qui est donc uniquement de suivre le minhaj des Rusul. Certains disent qu'on est à une époque qui diffère du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que tellement il y a des divisions dans la communauté, si on appelle les gens au tawhid, c'est-à-dire à l'unicité, et si on leur demande de s'écarter de l'innovation, automatiquement on va diviser les gens. On va diviser les gens encore plus. On va les diviser. On va faire donc dissension au sein de la communauté. Donc ce qu'il nous faut, c'est qu'on doit donc délaisser ces choses-là momentanément. Afin donc de rassembler les gens. D'abord les rassembler, c'est-à-dire les l'ijtima. Comme beaucoup de groupes, ils ont ce minage dès leur base, c'est-à-dire ils ont cette méthode. C'est de rassembler les gens. Et de ne pas dire des choses qui vont les faire diverger. Et donc on délaisse à partir de là le rappel de la croyance authentique. On va délaisser le rappel ou la mise en garde de l'innovation, etc. Ça c'est une première choubha. Alors que, comme on l'a vu auparavant, tout ce qui vient donc du Qur'an, tout ce qui vient donc de la sunna, c'est poursuivre la vérité, c'est poursuivre le haqq. Et même si les gens, ils ne sont pas d'accord avec nous, même si cela crée l'irtilaf, parce que ce qui nous est demandé à nous, c'est de suivre la vérité uniquement. C'est ce qu'on fait, tous les envoyés. Les envoyés eux-mêmes, lorsqu'ils ont appelé au haqq, est-ce que tout le monde les a suivis? Est-ce qu'il n'est pas venu la division? Même la pire des divisions, une grande division. Donc il y a bien eu la division. Bien entendu, c'est la division entre al-haqq et al-bati. De même, même si c'est au sein de la communauté, si maintenant on appelle au tawhid et les gens ne les acceptent pas, ils continuent dans leur shirkiyat, comme le fait d'adorer les tombeaux. Est-ce qu'on délaisse donc cela pour les rassembler les gens, pour rassembler cette communauté? Avec un embarqué, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est complètement faux. Ce que l'on doit faire donc, c'est concrétiser ce minage et l'appliquer comme il se doit. Et c'est par là que viendra le nasr réellement. Et d'autres, bien entendu, qui disent que le fait que l'on parle également de la croyance et que l'on appelle les gens à cela, ça va nous prendre du temps. Alors que les ennemis, en dehors de l'islam, ils nous attaquent de toutes parts. Et donc on doit s'occuper d'abord de repousser ces ennemis-là et ensuite, on doit faire de s'occuper après de ce qui se passe à l'intérieur de la communauté et de régler nos différends. Et d'abord s'unir pour combattre ces ennemis. C'est quelque chose qui est astin et ani khilaf al-waqi'. C'est quelque chose qui est complètement faux par rapport à ce qu'on vit de nos jours. Car on sait que le véritable problème de cette communauté, c'est bel et bien la divergence. Et le schisme qu'il y a à l'intérieur de cette communauté et la dissension. S'il n'y avait pas cela, si véritablement les musulmans étaient unis sur le haqq, sur la vérité, alors on serait fort devant l'ennemi. Et ce qui a fait réellement la faiblesse, c'est ça, c'est que les divergences qu'il y a eu dans la communauté, et ceux donc qui ont suivi le bid'ah, l'innovation, qui ont suivi at-turuq al-munharifa, qui ont suivi les voies qui sont différentes de celles du prophète et qui sont déviées de la voie des prophètes, etc. Donc on va arrêter que le véritable mot c'est celui-là. Et ceux qui vont donc commencer par appliquer le minhaj al-anbiya, c'est ceux qui vont commencer donc par ramener les gens au tawhid, au sein de la communauté. Et c'est par cela que ça va commencer. Et c'est par là qu'Allah Azza wa Jalla nous donnera réellement al-nasr. C'est vraiment là qu'Allah Azza wa Jalla va donc nous donner la victoire. Et pas autrement. Et donc ça c'est également une choua qui est complètement nouvelle. En plus de ça, si on regarde bien, tout ce qui s'est passé auparavant, du temps du colonialisme, etc., lorsque les pays mécréants ils ont envahi les pays musulmans, on voit que tout le temps ils se sont aidés justement des groupes innovateurs. S'il n'y avait pas eu ces groupes innovateurs, ça ne serait pas arrivé. Par exemple, lorsqu'on regarde en Inde, lorsque les Anglais ils ont envahi, colonisé l'Inde, ils sont appuyés sur les soufis, des sectes extrémistes chez les soufis, comme Al-Qadiani, qui a commencé par Ghulam Ahmed, qui était une personne qui commençait à prêcher Al-Dalal, et qui en a fini par dire qu'il était lui-même un prophète, etc. Ces gens, ils ont été, ainsi que leurs sectes, ils ont été quoi? Financés par, justement, les mécréants. Ils ont été financés par les ennemis. Donc, ils ont trouvé cette fenêtre ouverte dans la communauté pour pouvoir rentrer. Voyez, donc on voit que, justement, il est où réellement le problème? Le réel problème, c'est de la présence de l'innovation dans la communauté. Et s'il n'y avait pas eu cette innovation, les mécréants eux-mêmes, ils n'auraient pas trouvé de porte pour s'infiltrer dans la communauté musulmane et sur les terres d'islam. Ayyadun billah. Ensuite, pour finir le sujet, Inch'Allah, parmi ce qui fait partie du minhaj al-anbiya, Allah Azza wa Jal, c'est également un sabr, c'est-à-dire donc la patience. Et ça, c'est un point également qui est fondamental et que tous les prophètes ont appliqué dans leur vie. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit « وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلُ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا » C'est-à-dire que les envoyés, ils ont été avant toi, c'est-à-dire avant toi, Mirqabalika, avant toi, Mohammed, ils ont été traités de menteurs. On a démenti leur da'wa. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا. Ils ont donc fait preuve de patience par rapport à ce mensonge et par rapport à tout ce qu'ils ont pu rencontrer comme difficulté dans cette da'wa, c'est-à-dire lorsqu'ils ont appelé Allah Azza wa Jal. حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Jusqu'à ce qu'il leur est venu donc notre secours. Donc, ça a été ce qui est appliqué par tous les envoyés. Et celui donc qui veut faire la da'wa d'Allah Azza wa Jal, la doute d'Amin al-Sabr. Également, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour voir, durant la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment lui également il a patienté. On sait que, dans ce hadith qui est rapporté par Ibn Mas'ud, et qui était ce hadith qui s'est passé donc, Yom Hunayn, le jour donc de Hunayn, qui est un wadi qui se trouve entre Mecca et Tarif. Et qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dans ce hadith, لما كان يوم حنين أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حس مثل ذلك وأعطى ناسا من أشرف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. Donc qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là? Il y avait bien entendu le butin de guerre. Il a donné beaucoup de ce bien à des gens bien précis, voyez, et qui faisaient partie donc من الأشراف Ashraf al-Arab, qui faisait partie donc de ceux qui avaient un haut rang parmi les Arabes. Mais pourquoi il a fait cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a fait cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bil-hikmah, c'est-à-dire par la sagesse. Et il sait que si ces gens-là, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait pour l'islam. Il avait ma kana yakhaf al-faqr. Il n'avait pas peur de quoi? De la pauvreté. Il donnait, tant qu'il avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'islam. Yani pour Allah Azza wa Jalla. Il a donné à ces gens-là, car il savait qu'ils avaient donc une place qui était stratégique. Il savait que ces gens-là, en leur donnant et en les rendant donc satisfaits, et en voyant que l'islam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, au nom de l'islam, la yaqra, c'est-à-dire qu'il n'était pas avare envers eux, pour donc conquérir leur cœur. Pour conquérir donc leur cœur. Taïb. Donc ça, c'était le but. Et le prophète sallallahu a fait uniquement cela dans ce but-là. Et c'était donc son minhaj. Et donc, une personne qui a vu ça, il y a eu beaucoup de choses qui ont été données à certaines personnes, il a dit « Wallahi, inna hadhihi qisma ma'udila fiha, wa ma'udila fiha wajhullah » C'est-à-dire, cette qisma, ce partage, il n'y a pas eu d'équité. Elle n'a pas été faite par équité. Elle n'a pas été faite pour le visage d'Allah Azza wa Jalla. Et la personne qui a dit ça, ne l'a pas dit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait une Mas'ud, il l'a entendu. Et donc, il était voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a averti de ce qui a été dit. Et qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc, فقلت والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال. Et donc il ignore le prophète Ibn Mas'ud, il l'a informé. فتغير وجهه حتى كان كالصفر. C'est-à-dire que le visage du prophète صلى الله عليه وسلم, qui a entendu ça, il s'est changé. Il est devenu kassir, c'est-à-dire ahmar, c'est-à-dire qu'il est devenu rouge son visage, de colère, parce qu'il a entendu cette parole-là. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, فَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. C'est-à-dire, qui c'est qui va être juste dans cette prisma si le prof, si Allah et son prophète ne sont pas justes à propos donc de ce partage. Et qu'est-ce qu'il a dit? وَهَذَا وَشَاهِدْ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal lui fasse miséricorde à Moïse. قَدْ قُوذِيَ بِأَكْثَرِ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ. C'est-à-dire qu'on lui a fait plus d'injustice et que le résultat ça a été de sa part Moussa la patience. On sait que Bani Israël ils ont beaucoup fait de préjudice à Moussa durant tout son parcours à Moïse. Si on regarde tous les préjudices Bani Israël a fait à Moussa, quelque chose d'incroyable. Et malgré ça, fa sabara. Donc regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rappelé Moïse. Et à ce moment-là, sabara, il n'a rien fait. Il a patienté, il a rien dit. Adam il a dit, il a. Donc ça, c'est un point qui est fondamental. Celui qui fait la ta'awil Allah Azzawajal, il est obligé qu'il faut qu'il patiente. Car il sait qu'il va se faire insulter. Car il sait qu'il va se faire traiter par tous les noms. Peut-être même, jusqu'à ce qu'on le fasse sortir d'islam, qu'on lui dise que c'est un kafir, ou alors qu'on lui dise que c'est un hypocrite, etc. Ou alors qu'on insulte, c'est-à-dire même jusque dans son honneur, etc., dans toutes les choses. Il faut qu'il s'attende à cela. Celui qui va y prêcher dans l'islam. Et que cela, ça fait partie donc de ce qui est arrivé au prophète. Et que celui qui va suivre une hajj, l'anbiya, il s'attend à cela. Et on sait que as-sabr dans l'islam, au shukr, c'est-à-dire la patience, et également le shukr, qui est donc la reconnaissance, ça fait partie donc des points fondamentaux de la foi. Ça fait partie même des piliers de la foi, c'est-à-dire de ce qui est fondamental dans la foi. As-sabr ou shukr. Ça donc, c'est pour ce qui est de as-sabr. Et également, parmi les points qui rentrent dans cette da'wa ou dans cette méthode, c'est l'amal bima yad'u ilayhi. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle fait la da'wa, et ça, ça a été donc le minage des prophètes, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont appliqué. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été faire la da'wa à des gens, et ensuite ils ont fait le contraire. Et c'est pour ça que Shu'aib, le prophète Shu'aib, il dit dans un verset du Coran, d'après ce que nous rapporte Allah Azza wa Jal, ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإسلام ما استطعت. C'est-à-dire que je ne veux pas faire le contraire de ce à quoi je vous appelle. Je ne veux uniquement donc l'islam suivant donc ma possibilité. Donc ça c'est la parole de Shu'aib, un des prophètes. Et tous les prophètes donc, ce qu'ils ont appelé, ils l'ont pratiqué. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont pratiqué. De même donc pour ce qui est du da'i, c'est le sujet du minage al-anbiya, il est obligé de passer par là. Sinon automatiquement, cette da'wa, elle n'aura pas de valeur. Et les gens ne donneront aucune valeur à cette da'wa. Ça donc c'est pour al-amal bima yad'u ilayhi. Et également donc un autre verset qu'on va citer, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Donc ici, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, yani da'a عباد الله إليه. C'est-à-dire qu'il va appeler donc les gens à Allah Azza wa Jal. وعمل الصالحا. C'est-à-dire هو في نفسه مهتدي. C'est-à-dire qu'en lui-même il est bien guidé. Il est sur une guidance qui est propre, qui est nette. Donc également ce verset prouve que la personne qui fait la da'wah et que c'était le ménage l'anbiya, c'était donc d'appliquer ce à quoi ils ont appelé. Ensuite, le dernier point qu'on va traiter, Inch'Allah, c'est Al-Khuluq Al-Hassan. Al-Khuluq Al-Hassan, c'est-à-dire que la personne, également, ça a été minhaj al-anbiya, c'est qu'ils ont un bon comportement. Lorsqu'on voit leur comportement aux envoyés, quelque chose d'incroyable. Ce qui nous est conté dans le Coran, ce qu'on voit à travers la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y aurait donc des centaines de hadiths à citer pour ce qui est de Husn al-Khuluq. Il suffisait de savoir que Aïcha, ce qu'on avait demandé à propos du Khuluq du prophète, elle avait dit c'est comme un Coran qui marche sur la terre. Comme un Coran qui marche sur la terre. Donc un Coran qui marche sur la terre, quelqu'un qui applique ce qu'il fait. Et donc, tout, Al-Khisal, tout, c'est-à-dire les bonnes caractéristiques que l'on trouve dans le Coran, elles étaient donc en application auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il nous rappelle que le plus grand des ennemis d'Allah Azza wa Jal, qui est Fir'aoun, celui qui a l'alid d'Ar Rububiya, celui qui a même dit qu'il était le Seigneur. Ayyadun Billah. Ce qui peut avoir une personne qui est plus kafir que cela, Fir'aoun. Et pourtant, lorsque Allah Azza wa Jal, il a demandé à Moussa, il a demandé هارون d'aller voir Pharaon, qu'est-ce qu'il leur a dit? وقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. C'est-à-dire, dites-lui une parole layine, une parole non qui va être douce. Peut-être qu'il va se rappeler, peut-être qu'il va craindre. Une parole qui va être douce à une personne que si on voit, on voit le plus grand mutakabbir fil ard, c'est-à-dire le plus grand prétentieux sur la terre. Malgré cela, Allah Azza wa Jal, il commande à ses prophètes, à ses envoyés, de dire cette parole. Qawlan layyinan. Et également, Allah Azza wa Jal, il nous dit pour cette communauté, Udru ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al-hasana wa jadilhum billati ahsan. C'est-à-dire donc, invoque ou le rappelle sur le chemin de ton Seigneur avec sagesse. Et al-maw'ida al-hasana, c'est une exhortation qui est bonne, qui est belle, qui est douce. Wa jadilhum billati ahsan. Et donc, débat avec eux de la meilleure des façons. Ça, regarde, c'est ce qui est dit d'Allah à son prophète. Udru ila sabili rabbika. Et ensuite, également, Allah Azza wa Jalla nous cite pour ce qui est du prophète. Il dit, « وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ » Et tu es donc sur un, où tu possèdes un caractère éminent. Donc, tout ce que l'on peut trouver chez l'homme, de bon et les meilleures caractéristiques. Également, Allah Azza wa Jalla, il rappelle le bienfait d'Allah Azza wa Jalla sur son prophète pour ce qui est de toujours, ce qui concerne le خُلُقِ الْحَسَنِ, le bon comportement. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ يعني بمعنى فَبِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ C'est-à-dire, c'est de par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal que tu as été envers eux tout. لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ Et donc, si tu aurais été غَلِيظ, si tu aurais été dur, tu aurais fait preuve de dureté envers les gens seraient écartés de toi. Et donc, c'est de par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qu'il t'a donné, c'est par cette science, de par cette sagesse, etc., que tu étais doux envers les gens. Donc, comment un da'i, s'il est dur avec les gens, ils vont accepter de lui. On voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il était doux avec les gens, quand il les a appelés à Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il a fait dans sa vie, pour donc concrétiser cette douceur et pour finalement que les gens rentrent dans l'islam, parce qu'ils s'aperçoivent de ce niveau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dans la douceur et qu'il avait donc en ce qui concerne al-khuluq al-hasan. Ça donc, c'est pour ce qui est. Et nous, on va dire en résumé, parce que c'est tellement un sujet qui est large. Minaj al-anbiya fi da'wati ila Allah. Fa naktafi bi hadha bi idhnillahi ta'ala. Wa nas'al Allah azza wa jal an yarzuqna al-ikhlas fi al-qawli wal-amal. Innahu huwa al-marju wal-amal. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.